My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans Les Enfants du Nouveau Monde et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question de l'école. Alors si on vous disait que demain vous devez retourner à l'école et que vous allez rentrer en petite section de maternelle et qu'il vous faut recommencer tout votre parcours scolaire, ce que vous avez fait dans vos jeunes années, eh bien il faut le refaire à nouveau. Alors comment vous vivriez cela? Est-ce que ça vous rendrait plein de joie et d'entrain ou au contraire ça vous donnerait envie de vous échapper à l'autre bout du monde? Alors l'école, c'est plutôt de bons souvenirs ou un véritable cauchemar, ça dépend pour qui. En tout cas, aujourd'hui, je donne la parole à deux femmes qui interviennent auprès d'enfants en échec scolaire. Et avec leur témoignage passionnant, nous allons pouvoir réfléchir à l'école de demain. Une école plus proche de l'humain, plus proche des besoins de nos enfants. C'est Florence Alboui qui, la première, nous offre son regard sur l'école. Florence est kinésiologue.
J'ai 57 ans et puis je suis mère d'un jeune qui a 18 ans aujourd'hui. Et je suis aussi professionnelle depuis 20 ans avec l'outil kinésiologie. L'outil principal, c'est la kinésiologie. Et cet outil me permet d'accueillir régulièrement depuis 20 ans des enfants qui ont des difficultés de toutes sortes et entre autres des difficultés scolaires, parfois étiquetées dyslexie ou dysorthographie, dyscalculie ou autre. Et moi, je suis là à leur carrefour pour voir un peu ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent rester dans le système scolaire tout en améliorant leur état d'être intérieur. Alors, moi, je suis contente de pouvoir parler de ce sujet parce que j'ai un vécu, moi, personnel, difficile par rapport à l'école. Je pense que j'étais dyslexique quand j'étais jeune, mais ça se nommait pas à cette époque. Mmh. Et puis, il y a mon garçon, il a commencé l'école, comme tout le monde, en maternelle, même si j'étais pas très chaude pour qu'il y aille. Et j'ai tout de suite vu que ça ne lui correspondait pas du tout parce que c'était beaucoup trop formaté pour lui. C'est un enfant qui était, maintenant je nommerais d'autodidacte, c'est-à-dire qui s'imprègne de lui-même, de tout ce qui l'entoure. Et là, il n'avait plus cette possibilité-là puisque c'était tout le temps en train, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Et lui-même, dès la maternelle, le nommait en disant, mais j'en ai marre, la maîtresse, elle nous raconte toujours la même histoire, l'histoire de Dino, là, Dino qui fait de la peinture, Dino qui fait ci, Dino qui fait ça. Je dois m'arrêter tout le temps de découper, de faire du coloriage, de faire de la peinture, parce qu'il faut passer à autre chose tout le temps. Donc, être saucissonné en petit quart d'heure de ci et de là, pour lui, ça le dissociait de sa propre créativité, de sa propre spontanéité. Mmh. Voilà. Et du coup, quand il a été en grande section maternelle, eh bien, il s'est retrouvé dans une situation où c'est devenu ingérable pour lui. Et un matin, en l'emmenant à l'école, il s'est mis à pleurer en me suppliant de le ramener à la maison. Et ça a duré toute la semaine. Tous les matins, c'était la même histoire. Donc moi, je le ramenais à la maison. Et puis, on a fini par faire d'une façon différente. C'est-à-dire que j'ai accepté de le garder à la maison en me disant que, de toute façon, il y avait plein d'autres façons d'apprendre les choses que d'être dans une école. Et là, j'ai vu mon gamin qui s'est complètement ouvert, qui est devenu très curieux de tout, qui a retrouvé en fait sa curiosité, qui dessinait pendant des heures durant, qui bricolait un tas de choses. On allait dans la forêt le plus souvent qu'on pouvait pour vivre en lien avec la nature. Et ça a été vraiment une rencontre magnifique avec mon garçon.
Oui. Bon.
Après, ben, je suis retournée un petit peu en arrière parce que moi, pour pouvoir travailler, il fallait aussi que je trouve un mode de garde. Je ne trouvais pas à organiser quelque chose de suffisant pour lui avec d'autres amis, dans un principe hors scolaire. Du coup, on est retourné à l'école. Et là, J'ai pu constater qu'à nouveau, ils désapprenaient ce qu'ils savaient avec moi, parce que la notion d'écoute qui est à sens unique, c'est-à-dire les élèves doivent écouter l'adulte et répondre aux besoins de l'adulte en permanence, mais à aucun moment l'enfant n'est pris en compte sur son besoin à lui, sur ce qu'il connaît déjà à l'intérieur de lui, sur ce qu'il aurait besoin d'expérimenter avec les autres. Il n'est que en train d'intégrer des supports tout pré-formaté, j'ai envie de dire, qui doit rentrer dans sa case qui s'appelle la tête, et il n'y a plus d'espace pour la créativité, il n'y a pas d'espace de communication, rien n'est appris pour les enfants, pour qu'ils parlent et qu'ils communiquent entre eux de manière, intelligente et pour créer du lien. Donc c'est aussi ce que je rencontre en permanence avec les enfants que je reçois dans mon cabinet. Quand ils arrivent, moi dans Kinésio, on regarde, il y a trois parties créatives au cerveau, une partie système de protection et de survie. Eh bien les gamins, quand ils arrivent, la plupart du temps, les trois parties créatives sont disjonctées, ils sont juste en mode survie, à se planquer, avoir coupé la connexion regard, la connexion auditive, ne pas regarder pour ne pas être attiré vers des choses, parce qu'attention, danger, des choses qui, eux, leur plairaient, ils n'ont pas l'occasion de les faire, donc il ne faut surtout pas avoir envie. Pareil pour l'audition, je ferme mes oreilles pour ne plus entendre les discours qui me vrillent à l'intérieur, donc ils coupent l'audition, et l'expression verbale, eh bien, elle ne fonctionne plus. Ce qui fait que l'énergie va dans les jambes pour échapper, donc ils n'arrêtent pas de s'agiter, et dans les bras pour se défendre, donc ils sont tout le temps en train de bouger les objets, chatouiller les copains, et la bouche pour échapper cette énergie qui se concentre en système de survie. Alors la bouche, elle est tout le temps en train de bavarder. Donc tous les gamins qui sont agités dans les écoles, c'est en fait qu'ils sont en système de survie, ils sont dans un mode pour se sauver, sauf que comme c'est interdit de se sauver, ils sont en cage dans l'école et ils doivent rester là à écouter ce qui ne leur correspond pas. Et ça les coupe de leur propre ressenti intérieur, donc ils deviennent plus que des têtes, ils perdent la connexion à leur corps, et ils ne sentent même plus dans leur corps leurs vrais besoins. Et après, on arrive au stade adulte, où on a des adultes qui sont devenus des robots sociaux, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire dans leur propre vie, qui se casent comme ils peuvent dans un boulot, ou qui font une formation parce qu'il faut bien avoir un job pour avoir de quoi manger tous les jours, et qui ne sont plus du tout en lien avec leur vraie profondeur et leur essence d'être. Et après, voilà, on enchaîne comme ça pendant des années, et on arrive au burn-out ou à la dépression, où c'est la colère qui a été retenue tellement à l'intérieur, la colère de toute cette imposture sociale, qui fait que ces gens sont, à un moment donné, l'âme dit, moi je n'en peux plus, je suis assise sur un fauteuil à attendre depuis je ne sais pas combien d'années, là, que tu veuilles bien t'occuper de moi. Et le cerveau, lui, il est en automatique. Et à un moment donné, ça fait une distanciation. Les deux aspects se font une coupure. Et là, les personnes sont obligées de se réveiller. Voilà. Et de cet endroit-là, il peut y avoir un virage avec peut-être l'occasion pour les personnes d'aller un peu vers leur propre vie. Mais bon,
malheureusement,
quel boulot de nettoyage derrière.
Ouais, et puis c'est dommage de devoir attendre une maladie ou un gros choc dans sa vie pour faire les changements nécessaires à cette prise
de
conscience.
Mais c'est pourtant ce qui se passe pour que les gens fassent des changements. En général, il faut un gros choc pour arrêter ce conditionnement qui met tout le monde en roue libre dans une direction qui n'est pas celle qu'ils choisiraient si on écoutait leur profondeur.
D'accord. Alors ça serait un des premiers points à changer, ça serait vraiment se mettre beaucoup plus à l'écoute des enfants dans l'école de demain.
Alors, déjà commencer à la maternelle, quand on rentre en maternelle, c'est juste une catastrophe. Les enfants arrivent, on les met à un âge où ils ont du mal à gérer le lien et où ils ont besoin de se sentir en sécurité affective, on empêche les parents d'accompagner leurs enfants sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, au sein d'un lieu complètement étranger, au milieu d'une faune de d'autres gamins qui sont dans la même peur qu'eux. Ce qui fait que les enfants sont dans une première insécurité qui va se rejouer à chaque rentrée des classes. Donc déjà, s'il pouvait y avoir un changement total, c'est-à-dire on fait rentrer que 10 gamins à un endroit au lieu d'en faire rentrer 30, et surtout, on laisse les parents en présence pour que l'enfant se sécurise sur un endroit, et quand l'enfant est sécurisé, c'est lui qui dit à son parent « Va te promener plus loin, moi j'ai envie de rester là tout seul. » Ça, première étape, que les parents aient un vrai rôle d'accompagnement de leurs enfants. Ça se commence même au moment de la naissance. Que les parents aient la conscience que quand cet être il naît, c'est un être merveilleux qui arrive, on s'extasie pendant une heure devant lui, puis après, en maternité, c'est dramatique, les femmes sont devant leur téléviseur à regarder le programme télé alors que leur bébé est dans le petit lit en plastique, là, au lieu d'être en présence avec leur enfant contre leur sein et être là en train de goûter les moindres sensations de cette première connexion. Mmh. Et ça, ça n'est pas du tout montré. Et ça crée cette indifférence totale vis-à-vis de l'enfant.
Et alors si on en revient sur, c'est très intéressant, mais si on en revient sur la question donc, de l'école particulièrement, quels seraient les points à améliorer dans cette école de demain? Qu'est-ce qu'on
pourrait
changer?
Alors pour moi déjà, l'école, il n'y a même pas besoin d'apprendre quelque chose aux enfants. Ils sont naturellement curieux. Il y a à laisser un ensemble de, je dirais, avoir un ensemble de supports à disposition qui peut être des choses manuelles, qui peut être des choses plus reliées à des livres, des instruments de musique ou autres, et avoir ces supports-là, et quand les enfants vont vers ces supports, les aider à les exploiter selon leur âge, d'une manière qui leur convienne. Alors les écoles Montessori, Steiner, Freinet font un peu dans ce sens-là, et c'est déjà beaucoup beaucoup ce qui se fait, et moi je trouve que c'est intelligent.
J'imagine, Florence, que vous avez lu le livre d'André Stern « Et je ne suis jamais allée à l'école », qui est assez troublant. Où
ses parents l'ont laissé dans l'expérimentation de la vie avec quand même plein de supports autour de lui. Eh bien voilà, cet homme-là, il peut nous montrer effectivement qu'il n'y a pas besoin d'apprendre des choses aux enfants. Moi, quand j'ai fait l'école à mon garçon, entre guillemets l'école, j'ai fait pendant 3 années, grande section, CP et CE2. On faisait 1 heure de présentation de certaines choses, je lui faisais 1 heure de présentation de certaines choses, mais c'est lui qui me disait, mais ça, j'ai pas envie. Moi, je préférais ce truc. Il tournait les pages, il me dit, ça, je voudrais faire ça. Je dis, mais moi, ça, je suis pas préparé. Mais là, c'est ce que je veux faire. Ok, bah alors moi je m'improvisais, et puis 2 jours après il me disait, mais moi je connais par cœur ce truc. Je me dis, c'est pas possible qu'il connaisse par cœur, on l'a à peine fait. Effectivement, il connaissait par cœur. Mm-hmm. À partir du moment où il allait, lui, avec sa propre impulsion vers l'élément, il s'imprégnait immédiatement de l'information, et il en avait fait sa conquête personnelle, et à ce moment-là, il était libre, il était joyeux d'être allé chercher l'information dont il avait besoin.
Mmh,
et on a fonctionné comme ça pendant 3 ans, et quand il a repris l'école, il avait les mêmes connaissances que les autres, sauf qu'il était hyper autonome et hyper curieux, et qu'il n'était pas endormi comme tout le monde.
Mmh.
Donc si on laisse la liberté aux enfants d'être dans leur expression personnelle, qu'on les aide à communiquer correctement entre eux. Il existe plein de pratiques en communication bienveillante, qu'on nomme aussi CNV, non-violente, mais moi j'aime mieux dire bienveillante. Les principes que Rosenberg a développés,
oui,
je ne sais plus le nom de ces pratiques, mais bon, voilà. Il y a plein de pratiques qui existent, qui permettent de trouver comment être en relation de coopération au lieu d'être en rivalité, enlever alors complètement les histoires de notation, les histoires de comparaison, parce que ça vient juste pervertir totalement la relation humaine,
mm-hmm.
toutes les formes de jugement, il n'y a pas à juger, on est tous différents, comment pourrions-nous nous comparer?
Oui.
Est-ce que les arbres se comparent entre eux? Est-ce que les animaux se comparent entre eux? Il n'y a que les humains qui se font ça. Alors qu'on a juste à se dire, ah c'est super, toi tu sais faire ça, c'est génial, moi je sais faire autre chose, et on est complémentaires. Et on va s'entraider, tu vas me montrer un peu ce que tu sais faire, et moi je vais te montrer ce que je sais faire, et avec ça, on s'enrichit les uns les autres. Et avec ça, c'est évident que tout le monde est heureux.
Mmh. Très bien, bon, alors plein de choses très riches dans tout ce que tu nous témoignes, Florence. Cette école de demain, à ton avis, elle est vraiment pour demain ?
Alors moi, je sais qu'il y a plein de parents qui sont vraiment dans cette démarche. J'ai encore eu ce matin un papa d'un enfant de 3 ans qui est en train de regarder avec sa compagne pour introduire leur enfant soit dans une école Montessori, soit eux-mêmes créer un processus avec plusieurs parents, surtout que là, c'est la maternelle, il n'y a aucune obligation scolaire, espérons que ça va durer, de manière à ce que les enfants puissent être nourris par leurs propres parents dans un contexte plus affectif, où il n'y a pas la course contre la montre tous les matins avec « attention, il faut se dépêcher, là, là, là », parce que ça, c'est juste l'enfer.
Mmh.
Et puis, enlever aussi ces foutus devoirs scolaires qui ne servent à rien. D'abord, c'est interdit par la loi, mais les enseignants continuent à le faire. Ça amène une violence dans les familles tous les jours, et ça ne nourrit absolument pas le discours scolaire qui est actuel, qui est « il faut donner les mêmes chances à tout le monde », ben, c'est tout à fait le contraire qui se passe,
mm-hmm.
parce que quand c'est des familles qui ont des vraies compétences à l'accompagnement intellectuel, parce qu'eux-mêmes ça a été une réussite scolaire, ils peuvent accompagner leurs gamins, mais quand c'est des parents qui eux-mêmes ont souffert du système scolaire, c'est un cauchemar tous les soirs de devoir mettre leurs gamins en système d'apprentissage alors qu'ils n'ont pas envie, et ça crée des tensions et de la violence verbale, physique sur les enfants, et majoritairement dans les familles, il y a cette violence qui se vit à cause des devoirs scolaires du soir. C'est juste inadmissible.
Mmh.
Pour moi, le système scolaire actuel, c'est une organisation qui entretient et qui génère la soumission, l'adaptation et l'abus sur les personnes. Voilà. Pour moi, c'est très clair que le système scolaire, c'est ça qu'il fait à nos enfants. Et que c'est absolument nécessaire que les parents réfléchissent à créer autre chose. Ça, c'est incontournable. Il faut absolument se dépêcher de faire ça. Nos enfants sont en grande souffrance dans les écoles, de la maternelle jusqu'à la fin de leur scolarité. Ils sont en grande souffrance. Il y a 20 ans en arrière, les enfants, quelquefois, étaient avec des, je dirais, des états suicidaires vers l'adolescence. Maintenant, on arrive à avoir des enfants avec états suicidaires à partir de l'âge de 7 ans. Donc, il y a vraiment à s'interroger sur la souffrance qu'on fait vivre à nos enfants dans les écoles. Donc, les parents, je vous encourage à vous jeter à l'eau et à oser, avec vos moyens à vous, en tant que personne et vos moyens financiers réduits, parce que si vous êtes à plein de parents, vous organisez entre vous, ça coûte pas grand-chose, et les enfants en auront bien plus de bénéfices. Ils trouveront toutes les infos qu'ils veulent, il y a suffisamment de supports internet et autres, il n'y a pas de souci pour eux. Soyez confiants.
Et effectivement, il y a de plus en plus de parents qui cherchent des solutions alternatives à l'éducation nationale, puisqu'ils n'en sont plus satisfaits et cherchent une solution plus respectueuse pour leurs enfants. Donnons maintenant la parole à Marie-Hélène Joudiou, sophrologue, qui intervient justement dans l'éducation nationale depuis quelques années auprès des élèves en difficulté.
Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Joudiou, j'ai bientôt 53 ans, j'ai une formation de psychoclinicienne et de sophrologue, et j'ai étudié aussi plusieurs formes de yoga. Et j'ai redécouvert le monde de l'éducation nationale il y a 2 ans et demi maintenant, en acceptant une mission d'AVS, d'abord dans une école primaire et puis dans un collège.
Alors Marie-Hélène, juste l'AVS, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est,
le poste ? Auxiliaire de vie scolaire. C'est donc un contrat en moyenne de 20 heures, plus ou moins entre 18 et 24 heures. C'est un poste d'accompagnement aux élèves dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, multidys ou problèmes de comportement. C'est une présence dans la classe auprès de l'élève pour l'aider dans tous ses besoins. Donc ça peut aussi être des enfants qui ont des problèmes moteurs. Donc un petit cas sur un fauteuil roulant, les besoins seront autres qu'un dyslexique. Moi, en l'occurrence, j'avais des enfants qui avaient des problèmes de concentration et de dyscalculie, dysorthographie, etc.
D'accord. Alors, est-ce que tu avais suivi une formation spécifique pour aider ces enfants, ou qu'est-ce qu'on te demandait exactement comme type d'aide?
Alors, quand je suis rentrée en poste, je n'avais pas de formation, mais au cours de la première année, où il y avait eu une formation obligatoire de 60 heures. Donc, 30 heures en présentiel et 30 heures sur Internet.
D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, pourquoi je viens te rencontrer, c'est pour connaître ton bilan de ces expériences avec l'éducation nationale. Je te vois faire la grimace.
Alors, ça a été un choc. Ça a été un choc d'y retourner. J'avais quitté un peu la réalité de l'éducation nationale puisque mes enfants avaient grandi. Quand ils étaient petits, j'étais très investie dans une fédération de parents d'élèves. Et là, bah, comme ils avaient grandi, j'étais plus du tout au courant de ce qui se passait à l'école. Donc là, j'y suis revenue et à l'intérieur. Et j'ai été troublée de voir que c'était très tendu. J'ai trouvé que c'était très tendu. Le premier constat, comme ça, abrupt, ça pourrait être que les enfants n'étaient pas intéressés et que, en retour, les enseignants mettaient plus de pression. Et donc, c'était comme un cercle vicieux. Moins les enfants sont intéressés et plus les enseignants les réprimaient. Et donc, plus l'enfant désinvestit l'école, etc. Oui, je les ai trouvés dispersés, les enfants éparpillés. Oui, pas du tout dedans, pas du tout dedans. Donc ça génère aussi des problèmes relationnels énormes entre le personnel enseignant et les élèves eux-mêmes. J'ai constaté un appauvrissement de la matière scolaire.
Ah oui.
En feuilletant les manuels des enseignants et en les regardant travailler, j'ai été stupéfaite. Un petit exemple, par exemple, l'étude de texte. S'il y a bien quelque chose qui est subjectif, c'est l'étude de texte. Donc, on donnait des textes à étudier aux enfants par petits groupes. Donc, ça, c'est plutôt sympa comme boulot. Donc, ça pouvait m'arriver aussi de prendre des enfants un petit groupe à part. Donc, je recueillais leur point de vue. Mm-hmm. Voilà, ça leur permettait de s'exprimer. Et ensuite, il y avait une correction. L'enseignant avait un manuel dans lequel la correction, la bonne façon de penser le texte et d'interpréter, donc même de juger les émotions qu'avaient pu avoir les personnages, et même ça, c'était déjà défini et c'était soumis à notation. Et j'ai trouvé que c'était normalisant, appauvrissant et attristant.
Cet exemple, c'était dans une classe de quel niveau ?
C'était donc à l'école primaire et c'était des CM1, CM2. Mais ça, je l'ai retrouvé après dans les autres écoles, au collège, donc l'année qui a suivi. C'est pareil, quoi. L'enseignant, il avait son manuel de correction.
Même sur des choses aussi subjectives que ce que tu décris.
Sur des choses aussi subjectives qu'un texte qui pourrait être justement la possibilité à l'enfant d'exprimer son point de vue et de voir comment on est tous différents et de sentir la pluralité, la diversité, la richesse des idées, les différentes sensibilités. Donc là, non, il y avait la norme. Norme, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça qui est juste. Donc je me suis dit, mais on a régressé, quoi. Voilà. J'ai trouvé que les manuels étaient plus pauvres. J'ai eu l'occasion de débarrasser dans ce collège des salles avec des vieux livres, avec des images et des textes en botanique, mais de toute beauté, d'une richesse extraordinaire. Mais par rapport aux livres de maintenant, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Ah oui. Donc à force de vouloir simplifier, on a vraiment perdu, je trouve, la beauté des choses et la noblesse et la richesse. Mmh. On nivelle par le bas. On nivelle dangereusement par le bas, à mon sens.
Yeah. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan d'Ayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de bref. Folon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gaultier, je choquais. Mes blue jeans avaient quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux accents bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent, les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
Mais j'aurais dû sécher pour éviter l'amiante. J'ai des potes de toutes sortes, paix à 100 bangs. On se voit après les cours et je progresse au ping-pong. Dans les soirées rap, j'attaque freestyle au mic. Mountain back l'obstacle avec une paire de Nike. J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès. Au café PMU, c'était plus Spirit Press. Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un bon portable. Les temps changent.
Les temps changent.
C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'Académie des Neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Tu les aides pickpocket chez les kangourous, des potes, des bonnes steaks pour le barbecue. Mais le monde est complexe, j'ai le typex. Comme tout le monde, je reste perplexe. Je me rappelle encore de mon petit quartier nord. Nous faisons des tas d'efforts pour nos corps par le sport. C'est fini, y'a plus d'athlètes sur les pistes. On assiste à des compètes de 8-6. Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
cassé. When I was younger, quand j'étais plus jeune, with my newspaper, avec mes journaux, with Mrs. Power, avec Madame Power.
Et oui, les temps changent. Merci MC Solar de nous le rappeler. Nous sommes dans Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 99.2. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'école. L'école aujourd'hui, comment se sentent les élèves? Comment se sentent les profs? C'est Marie-Hélène Joudiou qui est auxiliaire de vie scolaire depuis 2 ans et demi et qui nous répond.
Moi, j'ai senti un profond ennui de la part des élèves. J'ai constaté, c'est pas que j'ai senti, hein. C'était visible et manifeste, donc il y a plusieurs façons de réagir à l'ennui. Soit on s'agite et on bavarde avec les copains, soit on rêve, soit on griffonne. Dans tous les cas de figure, la seule réponse que l'enseignant ait, c'est la menace de répression. Mmh. Donc on prend le carnet, on donne des verbes, ça je l'ai beaucoup vu, quoi, beaucoup, beaucoup. On te prive de récréation, bien vu. Donc les enfants s'ennuient et les enseignants, j'ai pas trouvé beaucoup de motivation chez les enseignants. Même la première année à l'école primaire, la première chose que j'entendais à chaque retour de vacances, c'était le décompte des semaines qui nous séparait des prochaines vacances scolaires. Moi je suis loin de ça, j'ai grandi dans une famille d'enseignants où il y avait, c'était presque un sacerdoce, quoi. C'était un véritable amour des enfants. Je dis pas qu'il y a pas d'amour des enfants, mais oui. Il y avait une vraie motivation enseignée. Mmh. Donc la question qu'il y a derrière, si les enseignants choisissent ce métier par amour, mais si à la finale, ils n'intéressent pas leurs élèves, est-ce que ça ne sera pas la matière scolaire elle-même? Voilà, ou la méthode d'enseignement, l'apprentissage lui-même, qui serait bon d'être vu, repensé.
Mmh. Alors justement, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que tu as rencontré des enseignants déjà qui se remettent en question, qui essayent de réfléchir, de trouver des solutions?
Oui.
Oui.
Alors qu'est-ce qui cloche? Mon analyse à moi, c'est que, pour être très, très bref, c'est que avant, l'école était celle qui apportait le savoir. Hors école, point d'instruction. Maintenant, le savoir est disponible. Nous sommes à l'ère du numérique. Mmh. La plupart des enfants, l'immense majorité, voire la totalité des enfants, ont accès à Internet. Si ce n'est pas chez eux, il y a toujours une médiathèque ou au collège, au CDI. Il y a toujours moyen d'aller sur Internet. Ils ont tous des portables ultra sophistiqués avec Internet dessus.
Ne serait-ce que les jeux qui sont de plus en plus éducatifs, des jeux d'éveil dès le plus jeune âge, etc., qui fait quand ils abordent le savoir très jeune.
Voilà. Et puis, quand maintenant les enfants veulent faire un exposé, nous avant c'était des heures de recherche dans les encyclopédies, là ils cliquent, bon ils ont tous la tentation, est facile de faire du copier-coller d'un certain site que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît. Donc voilà, l'école n'est plus celle qui apporte le savoir. Aussi, moi je crois que les consciences évoluent. Et ce qui était juste il y a 50 ans, c'est-à-dire d'enseigner les additions, les soustractions à tel âge, d'apprendre à lire à tel âge, parce que le développement de l'être humain était soi-disant favorable à tel apprentissage à tel âge, peut-être que maintenant, ça n'est plus tout à fait d'actualité. Donc...
Tu veux dire qu'on pourrait apprendre à compter plus tard ou pas de la même manière?
Alors là, il y a plusieurs, c'est très complexe comme question. On pourrait apprendre à compter en tout cas différemment, c'est ce qui se fait dans certaines écoles aux pédagogies différentes. On pourrait surtout, et à mon sens c'est l'urgence, c'est de respecter le rythme de l'élève. Parce que qu'un enfant apprenne l'addition à 5 ans ou à 8 ans, dans l'absolu, moi je m'en moque. Mmh. Par contre, ce qui semble peut-être utile, c'est qu'ils sachent maîtriser l'addition avant de passer à la soustraction, à la multiplication, à la division. Mmh. Donc pourquoi on ferait pas... Moi, quand j'étais à la fac, on avait des modules. Et tant qu'on n'avait pas des UV, des modules, tant qu'on n'avait pas validé certains modules, on pouvait pas accéder aux autres. Mmh. Et pourquoi on ferait pas ça? Plutôt que de faire des classes d'âge, pourquoi on ferait pas des classes de niveau sans faire quelque chose de compétitif? Justement, enlever tout ce côté-là. Mais par exemple, comme sur les pistes vertes, les pistes bleues, les pistes rouges, tu commences par la piste verte et la piste verte, tu as ces acquis-là. Si tu as validé tous ces acquis, super, tu vas pouvoir les suivre la piste bleue.
Alors, est-ce que justement l'école ne va pas dans ce sens-là, puisqu'on entend beaucoup parler de validation d'acquis, validation de compétences?
Oui, tout mais ça. Ils n'ont pas encore travaillé sur la notion des âges. Mmh. Si bien que les élèves qui, à la fin du CP, n'ont pas acquis le programme de CP. Ils sont quand même, parce que le redoublement, maintenant, on en entend de moins en moins parler, on pousse vraiment les élèves à suivre. Ils passent en CE1, ils n'ont pas acquis les choses du CP.
Donc, ils créent les fameuses lacunes.
Ça crée les lacunes. Donc, moi, ce qui m'intéresserait dans l'école maintenant, c'est qu'on apprenne à apprendre. Et plutôt que de leur enseigner un savoir de l'extérieur qui, lui, j'y reviens, est disponible grâce à l'informatique, plutôt se baser sur ce qui est naturel chez eux, c'est une curiosité innée. Les enfants, par le jeu, ils ont tout... Regardez ce qu'on fait tous quand on est petit. On dira que tu seras. Et là, on s'invente un monde et on apprend. On apprend par le jeu énormément de choses. Donc apprendre, réapprendre à apprendre et à suivre la curiosité naturelle de l'enfant. Ça me paraît important.
Alors j'imagine que quand même dans les classes où tu as été, tu as vu des enfants qui allaient bien et qui appréciaient d'être à l'école. Il y en a toujours quand même.
Oui.
Qu'est-ce que tu as remarqué chez ces enfants? Qu'est-ce qui fait que eux, ça va bien pour eux? C'est quoi le secret?
Ils sont adaptés, ils sont compatibles avec le système scolaire. Voilà, ils sont ni plus ni moins éveillés ou épanouis que les autres, sur d'autres points de vue. Il y a plusieurs formes d'intelligence, donc il y a d'autres domaines dans lesquels ils vont pas très bien. Mais s'il y a quand même quelque chose qui peut être noté, c'est que ce sont souvent des enfants qui ont un bon accompagnement à la maison. Une bonne présence parentale.
Marie-Hélène Joudiou, selon toi, le but de l'éducation nationale est-il de former des êtres libres de penser et d'agir, ou bien de formater les élèves pour qu'ils répondent plus tard aux besoins d'une société hyper productiviste?
Bon, je suppose que si tu me poses la question, c'est parce que voilà, il y a déjà quelque chose qui se tisse derrière. On est à l'ère de l'école de Jules Ferry. Quelles étaient les réalités de la société à l'époque de Jules Ferry? Les besoins n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus dans la recherche de production, on n'est plus dans... on essaye de se libérer des contraintes matérielles. On a compris que ça ne faisait pas le bonheur. On s'est un peu séparé du productivisme à outrance parce qu'on voit bien que ça ne mène nulle part. Donc effectivement, ce qui peut-être était utile à l'époque de Jules Ferry, peut-être qui était un peu d'élever l'humanité dans quelque chose de plus confortable, et de tisser une espèce de norme, parce que c'était rentable et utile à l'époque, ça ne l'est plus maintenant. Mais à mon sens, non, l'école ne forme pas à devenir un être libre et indépendant.
Actuellement.
L'école travaille en majeure partie sur une seule forme d'intelligence, qui est l'intelligence réflexive, le cerveau. Or, nous avons aussi une intelligence émotionnelle, sensitive, et nous avons aussi un autre centre sensitif et centre de la volonté, et le travail du corps, et la participation du corps. Et on apprend avec ces autres centres. Le cœur a sa propre intelligence, le corps a sa propre intelligence, et si on pouvait combiner les trois formes d'intelligence, mais quels êtres complets nous serions?
Oui, alors que là, c'est vrai que de laisser des enfants assis derrière une table toute la journée à ne mobiliser que leur cerveau, c'est obligatoire que ça crée un déséquilibre et des impatiences et de la nervosité, de la déconcentration. Enfin, c'est pas humain, j'ai envie de dire.
C'est pas humain. Tu te rends compte? En plus, ils sont privés de récréation. Et qu'en plus, ils mangent à la cantine et que déjà, ils doivent pas bouger sur leur chaise. Mais c'est insupportable, quoi, de rester 6 heures par jour assis, le derrière collé sur une chaise, quand t'as 6, 7, 10, 15 ans. C'est juste insupportable, quoi. Ils sont vivants, les enfants, ils sont vivants.
Alors, ça nous invite à réfléchir cette école de demain, après avoir fait ce constat sur l'école d'aujourd'hui. Quelles sont aujourd'hui les alternatives que tu connais, dont tu entends parler, qui te touchent?
Alors, il y a des pédagogies qui ont fait leurs preuves, je peux les citer?
Oui, bien sûr.
Donc Steiner, Montessori, Freinet, pour celles que je connais et qui sont dans la région.
Sachant que la pédagogie Freinet est intégrée pour partie dans l'éducation nationale par certains professeurs qui essayent de faire bouger les choses.
Oui. Donc ce sont des pédagogies qui permettent de porter un autre regard justement sur le développement de l'enfant et qui apporte autre chose. Après, ce sont aussi des pédagogies qui ont vieilli, comme tout système vieillit. Donc elles ont de très bons éléments, mais peut-être on pourrait combiner quelque chose de nouveau. On n'est peut-être pas obligé de rester dans les anciens schémas. et recueillir ce qui fonctionne et qui est épanouissant pour les enfants dans cette plus dans toutes ces méthodes pédagogiques et tisser quelque chose de nouveau alors qu'on sent que le nouveau demande qu'à émerger, ça serait à mon sens la bonne démarche. Donc il y a des pédagogues qui réfléchissent, il y a des films qui sont sortis récemment. Être et avoir,
c'était... Alors, Être et avoir, oui, ça fait déjà un petit moment. Là, le dernier qui est sorti de Clara Bellard, c'est Être et devenir sur c'est la non-scolarisation, là,
oui,
carrément.
Aussi, oui.
Oui.
Et puis, et moi, je connais une association qui rassemble des pédagogues, des gens, des chercheurs. Ça s'appelle le Printemps de l'éducation.
Mmh.
Et là, là, voilà, ils penchent vraiment sur la question et ils se posent vraiment la question de... Quelle est la meilleure école à proposer à nos enfants en tenant compte de tous ces paramètres et en sachant que les enfants sont plus conscients et plus informés que nous l'étions au même âge, que nos parents l'étaient, et que donc, comment on peut les nourrir? Parce que moi, ce qui me porte le plus peine, c'est de voir ces regards en quête de sens. Qu'est-ce qu'on est venu faire? J'ai l'impression de voir un grand vide.
Ouais.
C'est quoi l'histoire, quoi? On nous oblige à ingurgiter des informations dont on n'a rien à secouer parce que de toute façon on peut les retrouver partout ailleurs. Et
adopter un comportement à l'encontre de nos instincts pour voilà. Ça, dans ce but-là. Ça...
Et en plus, il faut qu'ils les ingèrent et qu'ils en ingèrent beaucoup. C'est juste indigeste.
Mm-hmm.
Voilà, mange trois repas différents en même temps. Toi, tu vas voir à la fin si ton estomac il est tranquille. Ben, leur cerveau, c'est pareil.
Mm-hmm.
Donc, l'école de demain, ça serait déjà respecter les individualités, les rythmes différents. Donc, pareil, qu'on apprenne l'addition à 5 ans ou à 8 ans.
Peu importe.
Le principal, mm-hmm. c'est qu'on sache la maîtriser avant de passer à autre chose.
Donc, qu'on soit à l'écoute du rythme de l'enfant et qu'on se mette à sa disposition plutôt que de lui imposer à tel âge, telle chose.
Quel est son mode d'apprentissage? Est-ce qu'il... Bon, ça, il y a beaucoup de pédagogues qui l'ont expliqué depuis longtemps. On n'a pas tous les mêmes capteurs ouverts. Il y en a qui ont besoin d'écrire, de voir écrit. Il y en a qui ont besoin d'entendre.
Mémoire visuelle, auditive, tactile,
voilà.
Etc.
Dans la pédagogie Steiner, l'alphabet, on l'apprend aussi avec le corps. On mm-hmm. forme les lettres avec le corps.
Avec le rythmie, c'est ça?
Voilà, entre
mm-hmm.
autres.
Mm-hmm.
Et avec support musical, et on peut inventer plein de choses.
Mm-hmm.
Avec...
Apprendre en s'amusant, rendre les choses plus ludiques, pour garder le goût, quoi. Sinon, effectivement, on se dégoûte et on n'a plus envie.
Bien sûr.
Ouais.
Faisons la journée, quand on doit, par exemple, apprendre l'alphabet, faisons la journée du A. Et allons nous balader, voyons tout ce qui ressemble à un A partout, dans la nature, dans les boutiques.
C'est vrai que c'est enthousiasmant.
Amusons-nous à dessiner des A, mettons-nous de la peinture partout et barbouillons des A sur des grandes feuilles de papier, chantons des A sous toutes les tonalités. Voilà, on pourrait s'amuser et je suis sûre que les enfants, ça les intéresserait.
Adoreraient et retiendraient bien voilà. plus et se sentiraient plus amis avec le A, le
bien
B,
sûr.
Le C, le D.
Mais ça, je ne l'invente pas, hein. je le synthétise là avec ouais. mes paroles, mais... Si je peux dire ces idées-là, c'est parce que je les ai bien lues quelque part ou mm-hmm. découvertes
oui,
dans
ça.
Des vidéos.
Oui,
c'est pas de moi, quoi.
Mm-hmm.
C'est pas si nouveau que ça, finalement. Mm-hmm. Ça, c'est fait. Mais pourquoi l'éducation nationale?
Pourquoi ça passe pas dans la réalité?
Pourquoi ça passe pas dans l'éducation nationale,
oui.
quoi.
Oui, oui.
Donc voilà, la nouvelle école devrait, à mon sens, tenir compte des individualités, du rythme. Et puis surtout, ne pas être sur un mode de compétition et enlever les notes. Parce que ça, c'est juste... humiliant,
mmh.
c'est humiliant pour les enfants. Et puis ça suffit, les punitions et les répressions. Il faut un cadre, hein. C'est sûr qu'il faut un cadre. Mais le cadre, ils peuvent l'apprendre autrement. Il faut un cadre ferme et doux.
Le cadre peut être plutôt basé sur la confiance que sur la méfiance et la pression et la punition.
Établissant des pactes, plutôt que de faire coller, il y en a encore qui copient le règlement, quoi.
Mmh.
Les heures de colle, ils copient le règlement. Ben, je sais pas, fais-leur faire une disserte, c'est plus intéressant.
Tout à fait.
Disserte sur quoi ils ont été collés, quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm. Tout à fait.
Donc, à la finale, les élèves décrochent.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une autre expérience à être sophrologue dans un collège. Donc, je sais pas, c'est le moment pour en parler.
Mais si, avec plaisir. Donc, puisqu'on parle des alternatives, là, tu as eu la chance de pouvoir justement intervenir d'une autre manière dans l'éducation nationale. Alors, parle-nous-en.
Donc, j'ai donc démissionné de ce poste d'AVS au bout de 2 ans parce que juste, j'en pouvais plus. Même mm-hmm. pour moi, 6 heures par jour dans une classe, c'était insupportable. Et j'ai eu la chance d'être rappelée par un collège qui met en place un pack décrochage avec une enveloppe. Le pack tout ficelé là, comme au supermarché.
Tu veux décrocher, achète le pack décrochage. Tu vas décrocher, c'est assuré.
Ils appellent
c'est
ça
vendeur,
le pack
décrochage.
Hein, voilà.
Tout à fait.
Ils n'en ont pas besoin. Donc, ils ont fait intervenir plusieurs spécialistes dans certains domaines, donc PNL, et moi, ils m'ont appelé en sophrologie.
C'est courageux, dis donc.
C'est super
original.
Courageux. C'est un principal que je salue vraiment pour son audace. Hein. Et avec lequel j'espère pouvoir continuer à travailler. Là, on est un peu en train de courir après les budgets, c'est toujours le même problème.
Dans quel établissement ?
C'est à Armand-Coussin, à Saint-Ambroy.
D'accord. Donc l'idée, c'est que les élèves qui...
Donc on a commencé, ça a très bien marché, il y a des très bons retours. Pour l'instant, au niveau des budgets, on n'est pas sûr de pouvoir continuer. Mais c'est très, très intéressant. Parce que, par exemple, moi j'avais une dizaine d'élèves... Hein, j'ai encore une dizaine d'élèves parce que c'est pas terminé qui venaient d'abord en séance individuelle, hein, donc on a d'abord essayé de travailler un peu sur eux, sur leurs rêves, hein, leurs déceptions par rapport à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus décrocheurs?
Décrocheurs, ça veut dire je sèche?
Je m'en fiche, je fais rien. D'accord. Je ne fais plus rien.
D'accord.
J'ai complètement désinvesti l'école.
D'accord.
Donc j'y vais juste parce que mes parents m'y déposent le matin et me récupèrent le soir. Mais je fais jamais mes devoirs, j'écoute pas en cours.
Mm-hmm. Okay.
Et puis après, tous les comportements agressifs dans la cour. Ou,
voilà. Mm-hmm. D'accord.
J'y suis plus. Je suis
oui,
plus là.
Je suis là, mais je suis plus là. Voilà. Ouais.
Et donc on a commencé par moi j'ai commencé par inviter les élèves à exprimer déjà qui ils étaient.
Mmh.
Quels sont tes talents, quels sont tes souhaits, quels sont tes goûts, quels sont tes rêves, et j'ai accueilli leurs rêves. J'ai pas cassé leurs rêves. Non, ben non, tu vois bien, avec les notes que t'as, tu vas jamais y arriver de toute façon. Puis de toute façon t'es pas assez intelligent, donc c'est même... non, c'est t'as envie de faire ça, et ben donne-toi les moyens de le faire. Moi je crois que tu peux y arriver. Donc valoriser tout le temps. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur la relation, sur la communication.
Mmh.
Et puis là, les dernières séances, c'était des séances de groupe. On travaillait plus justement sur la relation et malheureusement, ça va s'arrêter.
Et tu es intervenue aussi en tant que sophrologue. Tu as fait des séances de sophrologie avec eux.
Avec eux, c'est ça.
Donc sophrologie, c'est vraiment relaxation pour ceux qui ne savent pas.
Oui, et beaucoup de verbalisation. Ils ont beaucoup, beaucoup besoin d'être entendus.
Oui.
Donc, c'est sûr que les séances de sophrologie n'étaient pas aussi approfondies et longues que ce que je fais avec un adulte mm-hmm. dans le cadre d'une thérapie.
Mm-hmm.
Mais c'était intéressant parce qu'ils ont enfin, je les ai invités à écouter à l'intérieur d'eux et à reconnaître ce qu'ils voulaient vraiment et ce qui était juste pour eux. Et d'apprendre aussi à l'exprimer sans agressivité. Voilà. Et il y a eu des bons retours. Les enseignants les trouvent plus centrés, moins agressifs. Voilà. Mais l'expérience n'a que 3 mois. Donc, on espère pouvoir... la prolonger et voir à long terme.
Donc là, j'imagine que le proviseur fait remonter cette expérience, les bons résultats que vous avez eus pour pouvoir débloquer des budgets pour
voilà.
les années suivantes.
Oui.
Et on va savoir si c'est entendu, si effectivement
oui,
ou
oui,
pas.
Oui. Oui.
Mmh. Donc point de suspension.
Point de suspension.
Au prochain
oui.
épisode.
Oui, oui,
okay.
oui.
Chaque fragment de seconde dans nos jardins, l'amour, c'est droit devant. On se dit que l'on doit, puis on nous dit ce que l'on croit. C'est pour nous que l'on se penche sur le nid de nos détresses, couvrant nos instants de tristesse, paranoïa de la paresse. Des millions de naufragés, des millions de funambules au crochet de leur malheur, pour le jalouse et le bonheur. Entre celui qui n'a rien et celui qui veut tout, lequel des deux est le plus pauvre, c'est la question que je me pose.
On ne voit sous nos visières, on ne voit rien.
On n'entend rien.
Le tumulte est silencieux car nous sommes souris à la fin.
On ne sait rien.
On regrette d'avoir regardé seulement.
J'ai brisé les roseaux pour dessiner mon sentier, sans le vouloir déraciner l'espoir de ceux qui veulent croire. Dehors il y a la nuit, me murmure qui je suis. Sans être assuré, je ris sur la corde raide, je vis. Je ne suis pas encore aveugle, mais pourtant je ne proteste pas tellement. Trop souvent, je me laisse porter par le vent. Je me laisse porter par le vent, ligoté par derrière et bâillonné par devant.
C'était Doba Caracol, droit devant. Et droit devant, dans les enfants du Nouveau Monde, nous voyons arriver une nouvelle école, l'école de demain. Ça bouge dans l'éducation nationale et dans toutes les formes d'écoles alternatives.
Alors oui, ça bouge. Il y a même, j'ai même vu sur le bureau de l'infirmière que l'éducation nationale proposait une formation yoga à son personnel. Donc oui, ça bouge, bien sûr, il y a une interpénétration là de tout avec tout en ce moment, et tant mieux. Maintenant, faut savoir que, enfin, le regard que je porte sur l'éducation nationale, c'est que c'est une vieille institution qui est sclérosée et que c'est très 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 difficile de la faire mouvoir. Donc qu'il y ait des initiatives du bas qui émergent, tant mieux, parce que c'est comme ça que ça va bouger, parce qu'effectivement, du haut, j'ai l'impression qu'on peut attendre encore un petit peu.
Voire beaucoup.
Est-ce que la pression du bas va suffire à
faire bouger,
à diffuser la réforme, voilà, est-ce que ça
va être entendu par le sommet de la pyramide? Est-ce que les budgets vont aller dans ce sens-là?
Ça,
c'est toute la question. Ouais.
Je n'en sais rien. Il y a autre chose, un autre fonctionnement, un autre point que j'ai déjà parlé avec les enseignants que j'aimerais, qui peut aussi parler de la difficulté qu'ont les membres de l'éducation nationale à bouger.
Oui.
Et pourquoi les intervenants extérieurs peuvent amener une forme de liberté que les enseignants ne peuvent pas.
Oui.
Comment a grandi un professeur qui a toujours été professeur? Il est toujours resté dans un système où il y avait quelqu'un au-dessus de lui pour le contrôler, pour le juger. Mmh. Il n'a jamais quitté l'école. Et les enseignants, moi j'ai constaté que les enseignants, ils étaient juste complètement infantilisés, parce qu'il y a l'inspecteur qui passe de temps en temps et qui eux-mêmes, ils sont encore notés. C'est encore des enfants. Donc, ils ne font que reproduire, finalement. Ils sont jamais sortis de ce système. Et s'il y a des gens extérieurs, justement, comme nous, qui pouvons venir et apporter notre autonomie, notre liberté, parce que moi, l'inspecteur d'éducation nationale, personnellement, il a aucune incidence sur moi. Je m'en fiche complètement.
Mmh.
Et si on pouvait, justement, apprendre. Enfin, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne porte pas soi-même.
Tout à fait.
Et porte-t-il vraiment cette maturité, cette autonomie ? Donc, pardon, parce que je vais me faire peut-être souffler dans les bronches, mais
non,
c'est
mais
une
c'est
réflexion.
Non, mais c'est très intéressant comme réflexion, effectivement.
Que je me pose, l'enseignant lui-même, peut-il amener à cette autonomie ? Est-il lui-même suffisamment indépendant dans sa liberté de penser ? Voilà, ça c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que
oui, question ouverte, mais qui ouvre à beaucoup de réflexions. Voilà, et puis ça doit dépendre bien évidemment des personnes, ça dépend des contextes, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est une question qui est intéressante à se poser effectivement. Comment mener des élèves vers l'autonomie, la responsabilité, la conscience de soi, la capacité de prendre des décisions, d'assumer nos décisions dans une société, alors que soi-même, on est soumis à toute une hiérarchie, à des obligations qui, des fois, vont à l'inverse de ce qu'on aimerait faire ou de nos valeurs, et qu'on subit tout de même. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, par où on passe pour amorcer tous ces changements ? Par où on passe ?
On passe par, là, mon cœur, un peu avec une pointe de tristesse, je dirais qu'on passe par la souffrance des élèves, par le mal-être des enseignants. Voilà, malheureusement, il n'y a que comme ça encore qu'on apprend. On apprend à coup de claque. Notre société apprend encore à coup de claque. On est encore dans l'école.
Quand tu dis ça, c'est du point de vue que l'humain, pour évoluer, a toujours besoin d'être confronté à l'échec, à la souffrance, à la difficulté pour arriver à se remettre en question. C'est-à-dire, c'est et non pas qu'on met encore des claques à l'école. Hein.
Oui.
Le sens de ta pensée,
c'est
ça.
La claque symbolique.
La claque symbolique, ouais. C'est vraiment qu'il faut passer par toute cette souffrance pour qu'il y ait remise en question.
Voilà, il faut passer par des moments difficiles dans un collège pour s'apercevoir qu'il faut revoir quelque chose. Mmh. Voilà, il suffit qu'il y en ait deux, trois qui se battent, qu'il y en a un qui sorte un couteau pour que là on se dise attention, il faut faire quelque chose. Oui, il fallait peut-être s'en occuper avant. Mmh. Voilà, et comme dans notre société qui constate qu'il y a des enfants qui partent dans des systèmes extrémistes parce qu'ils avaient plus de sens, ils étaient plus nourris, donc forcément le premier qui passe qui leur promet l'Himalaya, évidemment qu'ils y vont. Mais si on les avait nourris, nous, avec nos valeurs, parce que c'est important, nos valeurs elles sont belles en France, liberté, égalité, fraternité, mais c'est juste magnifique. Et pourquoi pourquoi on les incarne pas? C'est magnifique, on a des valeurs magnifiques.
Alors justement, il y a des parents, face à ce constat, ils font le choix de pas mettre leurs enfants à l'école.
Oui.
Et donc, c'est les mouvements de no-schooling, déscolarisation ou non-scolarisation. Il y a des associations comme Les Enfants d'Abord, il y a différentes structures, puisque ne pas mettre ses enfants à l'école, bon, ben d'accord, mais il faut être très disponible pour pouvoir du coup accueillir, garder son enfant avec soi, chez soi, s'occuper de son éducation, de son instruction. Il y a des aides comme le CNED, par exemple, où on peut recevoir les programmes à distance et faire suivre les programmes à son enfant. Mais ça suffit pas. À un moment, l'enfant a besoin aussi d'être en lien avec d'autres êtres de son âge. Et donc, ses parents souvent se réunissent au sein de ces associations que j'ai citées pour pouvoir se retrouver entre eux et que les enfants aient quand même des liens, pas seulement avec papa et maman, mais avec plein d'autres enfants de leur âge. Parce que l'école, à mon avis, c'est en grande partie l'intérêt de l'école pour les enfants, c'est ça, c'est de, d'avoir des copains, des copines, apprentissage de la socialisation. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette non-scolarisation ?
Alors, j'en pense beaucoup de choses bonnes, avec des petites nuances. Je comprends tout à fait ces parents qui font le choix de déscolariser leurs enfants. Chapeau bas s'ils arrivent à les instruire. Après, t'as dit toi-même que ces parents recevait les programmes du CNED, donc le problème est le même. Si c'est
l'éducation nationale qui pêche,
si c'est justement le programme qui n'est plus intéressant, quel intérêt de recevoir les programmes du CNED ?
Sachant qu'il y a des parents qui se détachent aussi du CNED et qui font aussi à leur sauce. Hein.
Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait qu'on emmène les enfants dans la nature, qu'on leur apprenne à récolter les salades sauvages, et à prendre les plantes et... ça, ils ont peut-être plus le temps de le faire. Donc, effectivement, il y a du bon parce qu'ils peuvent choisir leur méthode d'apprentissage. Après, à nouveau, il y a le contrôle de l'éducation nationale, que ce soit avec le CNED. Il y a de toute façon, puisqu'ils sont inspectés, ces parents-là. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, qui me vient, c'est que, alors ça, effectivement, t'as dit qu'il y avait beaucoup d'associations comme ça, et j'en connais, où ils se retrouvent pour faire des activités ensemble, c'est bien. Moi, je suis pour quand même que l'enfant rencontre un max, vive dans un milieu ouvert. Et j'imagine que si un enfant, si c'est papa, maman, qu'il l'instruise, qu'il lui donne tout, qu'il est 24 heures sur 24 avec papa, maman, est-ce qu'on va vers l'ouverture? Est-ce que c'est pas riche aussi d'avoir d'autres intervenants? Voilà, c'est une question qui peut rester ouverte. Donc, j'en pense que ça a du bon. Mais n'enfermons pas les enfants dans ce... On sort d'un système, c'est pas pour les enfermer dans un autre. Et pour les couper du monde. Faut pas les couper du monde, quel qu'il soit. Parce que c'est bien ce monde qui demande à évoluer. Donc,
Je dirais pas le contraire, nous sommes dans les enfants du nouveau monde.
Nous sommes dans les enfants du nouveau monde, bien sûr.
Justement, il y a aussi tout un tas de nouvelles écoles qui fleurissent. De ce constat-là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de proposer des alternatives. Donc dans la région, on connaît l'école de Sophie Rabhi, rappelle-moi le nom, c'est l'école des enfants.
C'est le hameau du Buis,
au hameau des Buis.
Il y en a une à Malon et Else qui est en train de se monter, j'ai fait
à côté des Vences.
Voilà.
Oui.
Y en a une à Montclus, donc l'association Grandir Ensemble. J'ai rencontré la directrice. C'est super ce qu'elle a monté. Et elle a eu la chance que le maire lui réouvre l'école. Parce que ça, c'est génial.
Oh, super.
Ça, c'est une idée. Merci de me donner le micro pour le dire. Parce que dans les villages, les écoles sont fermées. Parce que l'éducation nationale, il faut 30 gamins par classe. Et il y a des écoles qui sont fermées, des classes entières qui sont fermées. Mais reprenons-les, ces classes, puisqu'elles sont là. Que les maires remettent à disposition, que les parents se montent en association, et que les maires mettent à disposition les locaux. Voilà, avec peut-être un petit truc, un petit loyer pour les charges ou quelque chose. Mais et pour démarrer, et c'est une école où les élèves... Alors, à
donc,
ma
école privée.
École privée, mais le, c'était beaucoup moins cher que les écoles Steiner et Montessori.
D'accord.
Avec ce que les parents versaient, elle pouvait payer le salaire de l'enseignante.
Oui.
Et là, elle ouvre une deuxième classe à la rentrée.
Fantastique.
Génial. Voilà, donc je t'invite vraiment à la rencontrer. Elle s'appelle Marie, je t'ai donné ses coordonnées.
Oui, je vais aller à sa rencontre. Il y a donc bien sûr l'école Steiner à Monteil qu'on ne présente plus. Dans les écoles alternatives, bien sûr, il y a les Calandrettes également.
Ils sont super.
Il y a une école qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps non plus, un an ou deux, à Colognac. Donc là, plus dans le sud du Gard. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'alternatives aussi qui se montent ou qui sont sur le point de se monter. Et puis, pour... ceux qui sont dans des coins où il n'y en a pas encore, ben, on vous invite à, pourquoi pas, à parler avec les parents autour de chez vous, vous poser toutes ces questions, en parler aussi avec vos enfants, et puis imaginer l'école de demain, puisque ça ne tient qu'à nous.
Oui, et dans cette école de demain, les parents, si le but aussi de réduire les coûts, parce que c'est vrai que les écoles privées, Steiner Montessori, c'est inaccessible pour la plupart des gens, il y a des parents qui peuvent intervenir, il y a des tas...
Oui. On parle d'école parentale, tout à fait.
On peut intervenir 2 heures par semaine et faire un atelier tricot, un atelier peinture, un atelier...
Que chaque parent vienne enseigner la chose qui lui plaît dans sa vie et qu'il aime et qu'il peut transmettre aux élèves, effectivement.
Voilà, des comités de pilotage, où on a un projet pédagogique, on réfléchit ensemble. Voilà, que ce soit un peu guidé, que ce soit structuré. Et là-dedans, l'enfant peut apprendre. L'enfant, il a besoin de lire, écrire et compter à la base. À partir du moment où il a ça, il a.
Il est autonome pour se procurer le reste du savoir, effectivement.
Sûr.
Merci beaucoup pour cet échange, Marie-Hélène.
Avec plaisir. Je serais intarissable. Je continuerai volontiers à parler, mais le temps nous arrête.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.